dans l'Exode et dans le Deutéronome, je vais demander à deux d'entre vous, à l'un d'entre vous, de lire la quatrième parole dans l'Exode et à l'autre de lire la même parole dans Deutéronome. Deutéronome, donc, c'est au chapitre 5. Alors, qu'est-ce qui prend d'abord la quatrième parole dans... Allez-y.
Exode.
Alors, Exode.
Sixième droit du jour du repos, pour nous sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est tes propres. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et la sainteté.
Bon, et alors qu'est-ce qu'il lit le passage de Deutéronome 5? Allez-y. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il peut me dire là? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Quelles sont les différences entre les deux quatrièmes paroles, celle de l'Exode et celle du Deutéronome? Allez-y. Oui, oui, c'est ça. Mais ça, c'est pas le changement le plus fondamental. Mais c'était, en effet, il y a une nuance.
Celui dans Exode 20 parle que la raison pour laquelle on doit observer le sabbat, c'est à cause de la création. Dieu s'est reposé le septième jour. Et dans Deutéronome 5, c'est un souvenir de la sortie d'Égypte.
Voilà. Alors c'est ça qui est évidemment la grande différence entre les deux textes. Alors nous allons donc prendre cette quatrième parole du Décalogue et tenir compte de cette différence notable. En Exode, la raison donnée du sabbat est le souvenir de la semaine divine de création, avec ses six jours de travail et son septième jour de repos, tandis qu'en Deutéronome, la raison donnée du sabbat est le souvenir de la délivrance d'Égypte. Bien entendu, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Disons que les deux formes de la quatrième parole se complètent, et si vous voulez, on peut même aller plus haut, c'est-à-dire monter de la création vers Dieu comme créateur, et monter de la sortie d'Égypte vers Dieu comme sauveur. Et au fond, si vous voulez, une fois de plus, il nous est attesté que Dieu est à la fois le créateur, il faut se souvenir de Dieu comme créateur, et il est le sauveur, il faut se souvenir de lui comme sauveur. Alors, je vais commencer peut-être par analyser le texte lui-même, et je dirais il y a toute la partie commune. Nous aurons à partir à parler de la conjonction du point de vue de l'Exode et du point de vue du Deutéronome plus tard, mais nous allons prendre d'abord la partie commune. Le rythme de la semaine est un rythme typiquement biblique. Dans aucune civilisation, vous ne trouvez ce même cycle hebdomadaire. Vous aviez des fêtes, vous aviez des jours de repos dans toutes les civilisations, mais c'est en Israël, à partir de Moïse et de la théophanie sinaïtique, que vont être observés les sabbats. Remarquez que le mot sabbat, qui signifie repos, peut être, au fond, de durée extrêmement variable. La longueur du sabbat n'est pas forcément la longueur d'un jour. Là, le septième jour va être le jour du sabbat, le jour du repos, mais par exemple, vous avez des sabbats longs de deux jours, dans Lévitique 23, 15, 16 et 21. Lévitique 23, 15, 16 et 21. Vous avez le sabbat d'une année, dans Lévitique 25, 4, 8. Vous avez le sabbat de deux années, la 49e et la 115e année, dans Lévitique 25, 8, 12. Et vous avez même un sabbat de 7 ans, de 7 années, dans 2 Chroniques 36, 21. 36, 21. Donc, vous avez des sabbats de longueur différente, mais parmi ces sabbats de longueur différente, il faut distinguer le sabbat hebdomadaire. Donc, 6 jours de travail, 6 jours et un jour de repos. En fait, on oublie que cette parole n'est pas seulement une parole concernant le repos. C'est aussi une parole concernant le travail. Et il y a un ordre de Dieu à Israël, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Et évidemment, la Bible établit la nécessité pour le travailleur du repos. Et en particulier, au point de vue social, il y a une grande portée au fait que non seulement les patrons, si j'ose dire, les gens de la maison au sens strict, mais les gens de la maison au sens large, c'est-à-dire les serviteurs, les servantes, les esclaves, doivent eux aussi se reposer. Mais il faut même aller plus loin. Non seulement il doit y avoir le repos des hommes, mais il doit y avoir le repos des bêtes, et même il faut aller plus loin. Non seulement il doit y avoir le repos des hommes et le repos des animaux, mais il doit y avoir même le repos de la terre. Le repos de la terre. La terre, elle aussi, est appelée à se reposer. D'ailleurs, c'est une question qui se pose d'une façon très actuelle aujourd'hui avec la vague de l'écologie. Vous savez, la vague de l'écologie est une vague qui n'est pas toujours très sérieuse. Et parmi les écologistes, il y a de bons écologistes, il y en a d'autres qui le sont bien moins. Mais en tout cas, parmi les chrétiens, on se rend compte que l'obéissance de la loi sur le repos de la terre est une loi bénéfique au point de vue de l'agriculture. Et je crois que ce n'est pas pour rien aussi qu'il y a aussi le repos de la terre qui nous ont donc indiqué dans 2 Chroniques au chapitre 36 et au verset 21. Un petit détail, puisque je parle du repos de la terre, pratiquement, depuis le temps de l'Exode jusqu'au temps de la déportation, ce repos de la terre n'a pas été pratiqué par Israël. Et c'est pourquoi Dieu va forcer Israël à laisser la terre se reposer, et en même temps va rattraper, si j'ose dire, les repos de la terre perdus, car c'est pour cette raison que Israël n'a pas observé le repos de la terre, que la durée de l'Exode va être de 70 ans, pour que soient rattrapées toutes les années qui ont été oublié par Israël, perdu pour Israël, et donc il va y avoir un repos de la terre qui va durer pendant ce temps-là. Autrement dit, il y a 70 ans de captivité pour le repos de la terre. et la captivité est à la fois un châtiment et une restitution par restauration du sol. Vous voyez, l'homme est tenté, on dirait en termes modernes, d'abuser de la terre, d'oublier la fonction des micro-organismes, d'oublier la nécessité de la régénération du sol, comme l'homme d'ailleurs oublie souvent les cycles de la vie animale et la nécessité du repos pour les animaux domestiques, en particulier pour les bêtes de somme et les bêtes de trait. Et c'est pourquoi l'ordre concernant le repos est un ordre qui s'étend depuis l'homme jusqu'aux animaux et jusqu'à la terre elle-même. Donc, je vous fais mention de cela, et souvenez-vous que comme entre l'Exode et la déportation à Babylone, les noix ont été négligées 70 fois, eh bien, là, il y a eu 70 fois un an de repos du sol qui n'ont pas été observés, eh bien, la captivité pour le repos de la terre va durer 70 fois. Alors, reprenons maintenant le texte, j'allais dire, phrase par phrase. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Là, on a une expression sanctifier. C'est le même mot qui a pour racine le mot hébreu saint. Kadash. Et là aussi, c'est le même verbe. Et on va sanctifier d'abord dans le sens le plus au premier niveau, si vous voulez, qui est de mettre à part. De mettre à part. Il faut que le dimanche, non, excusez-moi, il faut que le sabbat soit mis à part, sorte de l'ordinaire. Un jour sur sept, il y a un jour qui ne va pas être comme les autres jours. Parce qu'il y aura des jours qui seront des jours de labeur, des jours de métier, des jours professionnels, et il y aura un jour qui sera le jour du repos. Donc là, c'est le premier niveau, c'est le niveau, je dirais, le plus facile à entendre, le plus facile à comprendre. Et là, il y a un rapport qui établit le texte de l'Exode avec la semaine de création. Dans le livre de l'Exode, donc, il est dit, en six jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Donc, la semaine de l'homme va en quelque sorte imiter la semaine de Dieu. La semaine de Dieu est d'ailleurs une semaine mystérieuse, une semaine très mystérieuse. Je pense que c'est ce qui fait la difficulté pour l'accord entre les exégètes et le fait que, au sujet de l'interprétation, il y a des problèmes. Au sujet de Genèse 1, il y a des problèmes. Mais en fait, il faut voir qu'il y a de toute façon une semaine de création, une semaine de départ de l'histoire. Et dans cette semaine, il nous est dit que Dieu travaille pendant six jours et se repose. Et alors cela a des implications au point de vue même de la doctrine de la création. On entend parler quelquefois de création continue. Et je crois que c'est très dommage de parler de création continue. Parce qu'en fait, depuis que Dieu a achevé ces six jours durant lesquels il a travaillé à sa création, Dieu ne crée plus. Dieu a cessé de créer. Mais attention, le repos de Dieu ne signifie pas l'inactivité de Dieu. Au contraire, Dieu se repose en faisant autre chose que de créer. Et le Père, comme le Fils d'ailleurs, comme l'Esprit Saint, Dieu agit, continue à agir, mais il agit par voie providentielle. Il agit par une autre voie que la voie de création. Dieu veille sur sa création. Dieu entretient sa création. Mais Dieu ne crie plus. Et ceci est important parce que cela est un des fondements rendant possible la science. En effet, si Dieu continuait à créer, on se trouverait, au point de vue science, devant l'apparition de créatures nouvelles. On serait devant la création, soit dans l'ordre minéral, soit dans l'ordre végétal, soit dans l'ordre animal, de nouveautés inattendues qui empêcheraient justement la science d'œuvrer, parce que on serait à la merci d'une création nouvelle qui surgirait et qui viendrait s'interférer dans le cours de la recherche scientifique. Donc, Dieu a créé durant la semaine de création, ou plus exactement durant les 6 jours de création, et puis à partir du 7e jour, Dieu est entré dans son œuvre de providence et dans son œuvre de grâce générale et de grâce rédemptrice. Mais, je dirais, nous ne sommes plus au temps où Dieu crée, nous sommes dans le temps où Dieu entretient sa création et poursuit son œuvre, non plus en créant, mais en agissant providentiellement et en agissant dans sa grâce. Dans le texte de l'Exode aussi, au début, il faut noter, on l'a noté, c'est la première remarque qui a été faite et c'est très vrai, alors que dans l'Exode, il est dit « souviens-toi », n'est-ce pas ? Et nous allons voir, nous allons parler un peu du sens de ce mot. Dans le chapitre 5 du Deutéronome, il n'est pas question de se souvenir, mais il est question d'observer. Observe le jour du sabbat. Mais quand même, il y a aussi une mémoire à avoir. C'est la mémoire que tu as été esclave au pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. Donc, essayons de parler un peu de ce « souviens-toi ». Dans la Sainte Écriture, c'est un nombre considérable que le nombre de fois où est employé le verbe « se souvenir ». Et ceci nous amène à considérer l'importance de la mémoire. L'importance de la mémoire. Et à ce sujet, je vous recommande les œuvres de mon collègue et ami Pierre Chaunu, et il a un livre qu'il a écrit qui est très beau à ce sujet, qui s'appelle « Mémoire de l'éternité ». Mais je vous recommande la plupart des livres de Chaunu. C'est un homme qui écrit beaucoup, il a publié déjà beaucoup d'ouvrages, et je vous signale donc en passant ce livre qui s'appelle « Mémoire de l'éternité ». Et dans lequel il se réfère justement à la Sainte Écriture et à tous les « souvenez-vous », à tous les « souviens-toi » qui sont ordonnés dans la Sainte Écriture. Et donc, on va avoir dans l'Exode le souvenir de Dieu comme Créateur. Il faut nous souvenir de notre Créateur. « Souviens-toi de ton Créateur ». On revoit ça dans les livres sapientiaux, avec la concordance que vous avez ou que vous vous procurez, vous pourrez voir l'emploi important du verbe « se souvenir » dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. On dirait peut-être plus particulièrement dans l'Ancien Testament, mais je m'empresse de dire aussi dans le Nouveau. Vous avez au fond la différence au point de vue de la célébration de la Pâque et de la célébration de la Sainte Cène. Dans la célébration de la Pâque, qui est un sacrement sanglant, puisqu'il y a l'immolation de l'agneau pascal, Israël commémore et se souvient de la sortie d'Égypte, de la délivrance de l'esclavage. Tandis que dans la Sainte Cène, qui est un sacrement non sanglant, comme les sacrements du Nouveau Testament, la différence des sacrements de l'ancienne disposition sont des sacrements sanglants. Les sacrements sanglants sont dans l'ancienne disposition, les sacrements non sanglants dans la nouvelle. la circoncision est un sacrement sanglant, le baptême est un sacrement non sanglant, la mendication de l'agneau pascal, la célébration pascale est un sacrement sanglant, la Sainte Cène est un sacrement non sanglant. Pourquoi ? Parce que il ne peut plus y avoir de sacrement sanglant où une victime est immolée, où du sang coule, pour la bonne raison que le sacrifice unique et parfois où le sang a coulé a été offert sur la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, Jésus, au moment où il institue la Sainte Cène, dans la soirée du Jeudi Saint, montre bien que maintenant, son peuple ne va pas célébrer la sortie d'Égypte, ce n'est plus en mémoire de la sortie d'Égypte qu'il va y avoir le repas du peuple de Dieu, mais en mémoire de lui, Jésus-Christ. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, tandis que la célébration du repas pascal était en mémoire, en mémorial de la sortie d'Égypte, la Sainte Cène, elle, va être en mémoire de la venue, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, et aussi dans l'attente de sa venue. Donc, déjà, chez les Juifs, dans l'ancienne disposition de l'Alliance, le repos sabbatique est la fête du Dieu créateur et du Dieu sauveur. C'est un jour de résurrection et de Pentecôte, c'est un jour de joie. Et c'est important donc de voir le caractère festif de la célébration sabbatique. Et je dirais, de même que l'homme, dans le récit de la création, est image de Dieu, qu'il est créé image de Dieu et ressemblance de Dieu, de même, l'homme va devoir imiter, comme il est image de Dieu, le travail et le repos du Seigneur. Et c'est pourquoi il faut toujours souligner dans notre enseignement, dans notre prédication sur le décalogue, ce caractère double de la quatrième parole, du quatrième commandement, qui est, je le répète, aussi bien un commandement de travail qu'un commandement de repos. Alors, il faut, nous dit le Deutéronome, garder et observer. Là, le verbe qui est employé en hébreu, c'est le verbe « shamar », qui veut dire aussi « veille sur » ou « protège ». On pourrait traduire « garde » ou « observe » ou « veille sur le jour du repos » ou « protège le jour du repos ». Parce que le sabbat, le repos de Dieu, est un repos menacé par l'adversaire, et donc nous devons veiller à cela. Bien sûr, nous devons veiller contre l'adversaire tous les jours de notre vie, et donc tous les jours de la semaine, et pas seulement le jour du sabbat. Mais le jour du sabbat est un jour saint entre tous les jours, et donc il va falloir veiller attentivement à cet aspect. Dans la Genèse, au départ, le travail est un travail que l'homme fait sans peine. Vous savez, il y a un certain nombre de verbes qui sont indiqués dans la Genèse. Vous avez le verbe qui comprend les autres, c'est le verbe dominer. L'homme est appelé à dominer. Et puis, ensuite, vous avez trois verbes, cultiver, garder, nommer. En fait, normalement, dans toute son action aussi bien scientifique qu'artistique et technologique, c'est vrai, l'homme est appelé à dominer la création, à cultiver la création, à la garder et à nommer les créatures. Alors vous trouvez ces quatre verbes dans les deux premiers chapitre de la Genèse, et je dirais que ce commandement fondamental sur la vocation de l'homme sur la terre, c'est un commandement qui subsiste toujours, qui subsiste toujours et qui doit être intégré dans notre obéissance chrétienne. Mais je dirais, le travail, parce que tout ça, c'est le travail de l'homme, le travail ensuite de la chute est devenu pénible. Dieu annonce à l'homme qu'il devra travailler à la sueur de son front. Le travail sera donc marqué depuis la chute, depuis l'apparition du péché, par un caractère dur, pénible, fatigant. Et en plus, car cela va de soi, l'homme, au lieu d'accomplir son travail dans la soumission à la loi de Dieu, va accomplir son travail depuis la chute dans la révolte contre Dieu. Si bien que toute la poursuite du travail scientifique, artistique et technologique de l'homme, non seulement est entachée par la fatigue, mais surtout, ce qui est beaucoup plus grave, et d'ailleurs, le fait de la fatigue est une conséquence de l'autre, c'est que l'homme fait tout cela en révolte contre Dieu, en opposition avec Dieu. Alors, en Jésus-Christ, le commandement de la Genèse, avec les quatre verbes, dominer, cultiver, garder et nommer, reprend vie, en quelque sorte. Il reprend vie en Jésus-Christ, et il reprend vie pour le chrétien fidèle. C'est pourquoi le chrétien fidèle, dans le travail qu'il accomplit, selon l'ordre fondamental du début de la Genèse, eh bien, il va le faire maintenant, le chrétien. Bien sûr, il connaîtra aussi la fatigue, mais il va retrouver aussi une joie profonde, parce qu'il ne va pas dominer comme un roi sur la création, et il ne va pas accomplir sa profession, ses recherches dans la révolte contre Dieu, mais il va le faire en gérant de la part de Dieu. Autrement dit, si vous voulez, dans la révolte contre Dieu, l'homme se fait roi. Et alors, si vous voulez, il fait tout ça comme s'il était roi dans sa révolte. Tandis que dans le seul roi, pour nous, c'est Jésus-Christ, à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est Jésus-Christ qui est le roi. Et nous sommes dans notre travail des six jours, dans le travail, dans le métier de notre vie, nous sommes non pas des rois, mais des serviteurs du roi, des gérants du roi, sous l'autorité du roi. Alors vous voyez, le commandement de la Genèse n'a pas à être supprimé. Vous savez, vous avez des chrétiens qui risquent de ne considérer comme chrétiens que la part, j'allais dire, proprement pieuse ou culturelle de leur vie, ou la part proprement ecclésiastique de leur vie. Tandis que nous ne devons pas avoir cette vision des choses, parce que ce serait une fois de plus abolir l'Ancien Testament et rejeter la loi de Dieu. Or, pas du tout, la loi de Dieu subsiste, et Dieu appelle l'homme à dominer, à garder, à cultiver, à nommer la création. Donc, le commandement de Dieu subsiste, et au fond, un chrétien doit être chrétien dans l'accomplissement de son métier, de son travail. D'ailleurs, j'attire votre attention, c'est que le mot « métier » vient du latin « ministerium », c'est une contraction, « ministère », c'est le terme long, et « métier », c'est le terme ramassé. Si bien que on peut très bien parler du métier pastoral, parce que c'est le ministère pastoral, et on peut très bien parler du métier d'un chrétien qui n'est pas pasteur et dont le ministère est un ministère qu'il accomplit pour Dieu et dans le service de Dieu dans sa profession, à condition bien sûr que ce soit, je le répète, une profession légitime. Alors, il faut bien voir que l'appel de Dieu à la foi ne doit surtout pas comporter de soi, obligatoirement, un appel à une vocation ecclésiaste, à un ministère comme celui de pasteur ou de missionnaire ou autre. si vous voulez, le pasteur ou le missionnaire sont des chrétiens dont le métier est d'être pasteur et missionnaire. Mais il y a des chrétiens dont le métier, le ministère, est d'être de bons un bon paysan, ou un bon ingénieur, ou un bon médecin, ou un bon professeur, etc. Et c'est important cela, je vous dis, parce que la vocation pastorale ou missionnaire, c'est une vocation particulière, et d'aucuns peuvent recevoir en même temps, d'ailleurs, l'appel de Dieu à être chrétien et l'appel de Dieu à être pasteur et missionnaire, mais il faut néanmoins distinguer les deux choses. Parce que quand un médecin accomplit son métier de médecin, ou quand un architecte accomplit son métier d'architecte, s'il le fait pour la gloire de Dieu, et s'il le fait pour entrer dans le commandement de la Genèse, au service de Dieu, il accomplit un ministère. Il fait ce à quoi Dieu l'appelle. Et il ne doit pas avoir un faux sentiment. C'est pour ça qu'il y a des expressions que nous employons. Moi, ça m'est arrivé d'employer. Vous savez, quelquefois, on dit serviteur de Dieu à plein temps. Mais tout chrétien est serviteur de Dieu à plein temps. L'architecte chrétien est serviteur de Dieu à plein temps. On n'est pas serviteur de Dieu simplement quand on prie, ou quand on se rend à l'église, ou quand on va à une réunion de prière, ou quand on va à une étude biblique. On est chrétien dans son métier. On est chrétien dans sa famille. On est chrétien dans sa cité. On est chrétien dans tout. Alors, c'est pour ça que ça m'arrive. Moi, quelquefois, je dis aussi, créer un ministère à plein temps. Comme si le pasteur avait plus un ministère à plein temps qu'un médecin ou qu'un paysan. Nous avons tous un service de Dieu à plein temps. Dieu nous mobilise à plein temps. Seulement, évidemment, il y a des vocations particulières à ce qu'on appelle le saint ministère. Mais même là, on pourrait discuter sur le terme saint. Est-ce que le ministère de pasteur est vraiment plus saint que le ministère d'un médecin chrétien ou de... Vous voyez, on pourrait même discuter là-dessus. Mais c'est pourquoi il faut que nous fassions bien attention à encourager les membres de nos églises. Je dis ça parce que la plupart d'entre vous, vous êtes pasteurs ou de futurs pasteurs. Vous savez, il faut toujours se réjouir avec celui qui a une vocation pour le ministère pastoral. Bon, mais je dirais, il faut encourager aussi le chrétien qui n'a pas cette vocation à vivre vraiment chrétiennement sa propre vocation. Et c'est pas commode. Être un commerçant chrétien, c'est pas commode. Mais être un médecin chrétien, c'est pas commode. Regardez toutes les pressions à cause du développement de l'avortement, par exemple, qui peuvent s'exercer sur un médecin chrétien. Eh bien, tenir bon et rester un médecin chrétien et se refuser à pratiquer des avortements, vous savez, c'est très difficile. En France, je sais que dans les hôpitaux où maintenant on cherche à imposer un service d'avortement, c'est très difficile. Et comment être, par exemple, dirigeant d'un hôpital si l'on est chrétien, où se pratiquent les avortements, même si on ne pratique pas des avortements soi-même? On trouve en difficulté. Les gens qui disent « Oh, c'est très difficile d'être un médecin chrétien. » Mais c'est difficile, je veux dire un commerçant chrétien, mais c'est difficile d'être chrétien en n'importe quel métier. Et je vais même pousser les choses, mes amis. Je le dis après 43 ans de ministère, c'est très difficile d'être un pasteur chrétien. Être chrétien dans son métier, dans son ministère, quel que soit le métier, c'est très difficile. Et il y a des tentations diverses. Ce n'est pas les mêmes tentations qui s'exercent sur un pasteur ou qui s'exercent sur un architecte. Mais, croyez-moi, le combat pour exercer chrétiennement son ministère est aussi difficile pour un pasteur que pour un médecin, et même à certains égards, est encore plus difficile. Il y a des gens qui suivent que parce qu'on est pasteur, on a une vie chrétienne facile. Ça n'est pas vrai. La vie chrétienne n'est jamais facile. La vie chrétienne est toujours un combat. L'important, comme le dit saint Paul, c'est d'être à sa place. D'être à sa place. Et il y a des gens, quelquefois, qui auraient peut-être mieux fait de ne pas être pasteur, parce qu'ils n'étaient pas faits pour ça. Et l'important, c'est d'être à sa place. Il faut être à sa place. Si l'on est à sa place, c'est-à-dire à la place que Dieu a préparé pour vous, la place à laquelle Dieu appelle, eh bien, on est dans la bonne voie, on est la voie du Seigneur. Et mieux vaut être quelquefois un chrétien non-pasteur qui fait vraiment chrétiennement son métier, que d'être un chrétien pasteur qui fait mal son ministère. Et c'est pourquoi nous devons avoir là une bonne idée sur ce qu'est le travail. Alors essayez de vous rappeler, moi j'ai été aidé par la... on m'a fait observer que le verbe dominer dans la Genèse comprenait ces trois points. Et qu'au fond, la science, c'est est en rapport avec chacun de ces trois verbes, peut-être plus particulièrement avec le verbe nommer. Qu'est-ce que c'est qu'un savant ? C'est quelqu'un qui peut de mieux en mieux et avec de plus en plus de précision nommer les choses de la création. Mais le mystère de la création reste le même. Simplement, on le nomme avec de plus en plus de précision. Au fur et à mesure que la science se développe, eh bien, on arrive à nommer de plus en plus précisément. Mais on nomme, on ne fait pas autre chose que de décrire, que de nommer. Ce n'est pas l'homme qui crée, ce n'est pas l'homme qui invente au sens rigoureux. Au fond, il ne fait que découvrir ce que Dieu a caché dans les mystères de sa création. Mais l'homme ne crée pas. Et quand on dit la loi un tel, par exemple on parle de la loi de Lavoisier, ou on parle de la loi de Newton, etc. En réalité, pas du tout. C'est peut-être que Lavoisier et Newton ont découvert une loi que Dieu a mise dans sa création. Mais c'est une loi de Dieu qui est découverte par un tel ou un tel. La loi de la gravitation universelle, bon, c'est une loi, mais c'est Dieu qui a voulu que dans sa création, il y ait cette loi qui régit sa création, il y a la loi de gravitation universelle. Ben voilà, nous y sommes soumis d'ailleurs, nous comme les autres, et on peut même calculer avec précision la vitesse à laquelle arrivera mon corps si je me jette d'un septième étage, ce qu'à Dieu ne plaise, ou si je tombe d'un septième étage, on peut calculer que mon corps arrivera en bas à une vitesse qui est proportionnelle à mon poids et à la distance qui va de la fenêtre jusqu'au sol. Ben, ça peut calculer tout ça. Bon, c'est une loi de Dieu, et même si l'homme peut la calculer, il ne peut pas se dire « Ah, si je suis fort !» comme s'il avait, lui, inventé la gravitation. Il n'a pas du tout inventé la gravitation. Il a simplement découvert une réalité que Dieu a posée dans sa création, ce qui n'est pas la même chose. Alors, n'oublions jamais que la grande différence qu'il y a entre le travail avant la chute et le travail après la chute, c'est que après la chute, le travail est devenu fatigue, est devenu même joug. Et pour certains, le travail peut devenir un joug insupportable. Et ça par la faute des hommes. Par la faute des hommes. Moi, je n'oublie jamais qu'au début du 19e siècle, on faisait travailler dans les mines des enfants de 7 et 8 ans, qui mourait d'ailleurs très jeune dans bien des cas. Et il y a des choses comme ça qu'on a fait ou qu'on continue à faire, et tout ça, on doit s'en souvenir. Et pourquoi on doit s'en souvenir ? Parce que dans le texte du Deutéronome, parce qu'il faut toujours conjoindre les deux textes quand on parle de la quatrième parole, puisque c'est la seule qui soit différente, pour tous les autres points elle est la même, qu'est-ce qui est dit dans cette cinquième parole ? Alors Deutéronome 5, bien sûr, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. Eh bien, là aussi, il faut bien voir, il y a allusion à ne pas se conduire en égyptien, c'est-à-dire à ne pas traiter ses prochains en esclaves, à ne pas les opprimer, à ne pas les exploiter. Bon, au point de vue éthique, vous avez un contenu, bien sûr, il n'y a pas seulement l'ordre de faire se reposer le serviteur et la servante, il faut qu'ils se reposent. Bon, moi j'ai connu un temps, ça n'existe plus aujourd'hui, mais en France, il y a seulement 40 ou 50 ans, il y avait un nombre considérable de bonnes à tout faire. Même des ménages modestes avaient des bonnes à tout faire. Or, qu'est-ce que c'était que la bonne à tout faire ? C'était une fille qui se levait à 6 heures du matin afin de préparer le déjeuner de ses maîtres, qui se couchait à 10 heures ou 11 heures du soir après avoir fait la vaisselle et tout ça, et à qui très souvent on demandait de travailler en plus le dimanche. Et on voyait même des chrétiens qui allaient à l'église ou au temple et qui pouvait tranquillement aller à l'église et au temple dimanche parce que la bonne était restée à la maison pour préparer le repas. Et en plus, ce qui était plus significatif, c'est que ces bonnes étaient, c'était pour ça que presque beaucoup de gens pouvaient en avoir, étaient pour ainsi dire pas payées ou très peu payées. Hein? Eh bien ça, c'était une chose en contradiction formelle avec la quatrième parole du décalogue. Parce que, justement, le membre du peuple de Dieu se souvient qu'il a été esclave, qu'il a été opprimé. Que ce soit l'esclavage et l'oppression de l'Égypte, que ce soit l'esclavage ou l'oppression du péché. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas contribuer à ce que les autres vivent dans de pareils esclavages, mais au contraire à ce que les autres en soient délivrés de ces esclavages. Hein? Donc vous voyez, je vous indique en passant que la portée éthique de la quatrième parole va au-delà de ce que... Moi j'ai connu, par exemple, une jeune fille qui est venue me voir un jour à mon jour de réception à l'église, parce qu'elle n'avait pas osé venir chez moi, elle avait eu bien tort, et qui est venue me dire, voyez, je suis croyante, j'aime le Seigneur Jésus, mais je suis domestique chez de vos paroissiens, et je n'ai jamais l'autorisation d'aller au culte le dimanche. Et c'est pourquoi vous ne me voyez jamais au culte. Et comme pasteur, eh bien, j'ai fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'il a fallu que j'aille trouver ces paroissiens. Alors, je ne leur ai pas parlé durement, j'aurais pu, permettez-moi l'expression, les engueuler, mais ce n'était pas la bonne méthode. Je suis venu au contraire pour leur parler du jour du repos, pour leur parler de la quatrième parole, et pour leur dire, est-ce que vous êtes posé la question ? Je me suis bien gardé de leur dire que cette jeune fille était venue me voir. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que qui sait, ils auraient pu, au contraire, devenir plus mauvais avec elle. Encore non, ils n'étaient pas tellement mauvais avec elle. C'était simplement que ça ne leur venait pas à l'esprit. Ils trouvaient tout naturel, eux, de venir au culte. Et ils ne comprenaient pas que leur servante devait être libérée le dimanche. Alors, voyez, ça dépasse ce cadre-là, mais ça touche au cas de bien des métiers. Alors, c'est sûr que dans notre monde moderne, ça n'est pas possible que tout le monde se repose le dimanche. C'est pas possible. Parce que, justement, nous avons une technologie avancée, hein, et si vous voulez, il faut que l'électricité continue à fonctionner, il faut donc qu'il y ait des gens pour surveiller la bonne marche de l'électricité, et ainsi de suite. Et tout, nous sommes dans un monde où il faut veiller à ça. Et puis alors, en plus des relations internationales, vous comprenez, à cause des fuseaux horaires qui sont différents, j'en sais d'ailleurs quelque chose, parce que j'ai beaucoup de peine à m'adapter aux heures du Canada, parce que je suis trop habitué aux heures de la France. Mais vous voyez, c'est pas possible d'avoir le même jour de repos pour tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Et regardez au point de vue du télégraphe. Le télégraphe, qu'il est telle heure au Canada, mais c'est l'heure où il n'y aurait personne de l'autre côté en France à cause de la différence de fuseau horaire. Donc nous sommes dans une civilisation. Mais il y a une chose importante, c'est qu'il faut que chacun et son jour de repos hebdomadaire. Et non seulement avec le jour du repos, mais avec les jours de travail. Et donc, attention, ne nous conduisons jamais, nous chrétiens, en égyptiens. C'est-à-dire, ne faisons jamais de nos prochains des esclaves. Ne nous conduisons pas en oppresseurs ou en exploiteurs. Voilà donc un premier paragraphe. Un autre paragraphe concerne le lien entre le peuple de Dieu et le jour du sabbat. Là aussi, on se trouve devant une certaine difficulté. C'est que, dans une grande ville, en tout cas, j'ai été, vous le savez, pasteur à Paris pendant 23 ans, c'est une grande ville, on se trouve devant une difficulté. C'est que, à cause de ce que je viens de dire avant, tout le monde n'est pas forcément libre le dimanche. Et il y a un lien cependant certain entre l'assemblée cultuelle d'Israël et la célébration sabbatique. Autrement dit, le commandement est donné à Israël aussi en tant que peuple, et c'est le jour du sabbat que le peuple de Dieu s'assemble pour louer le Seigneur, pour entendre sa parole. Et alors vous savez que souvent, le jour du sabbat, Jésus a observé lui-même cela. Il se rendait à la synagogue, à Nazareth ou ailleurs, selon l'endroit où il était. Il observait l'assemblée synagogale. Tout le monde ne pouvait pas se rendre au temple, puisque le temple était à Jérusalem et qu'il n'y avait qu'un temple en Israël, mais on allait dans l'assemblée synagogale du lieu où l'on habitait. Bon, mais on est obligé de penser à ça. Je ne sais pas comment vous faites à Montréal à ce sujet, mais dans notre paroisse, à Paris, nous avions le culte dominical, qui était le culte où venaient la plupart des membres de l'Église, mais il y avait toujours des membres de l'Église qui, en cause de leurs obligations professionnelles, ne pouvaient pas être à l'Église ce jour-là. Eh bien, nous avions institué un autre culte en semaine, et alors nous étions partis du principe, les premiers chrétiens s'étaient assemblés, non pas le jour du repos, mais au soir d'un jour qui était ouvrable en Israël. Puisque le dimanche, le lendemain du samedi juif, c'était un jour ouvrable. Et c'est le soir de ce jour ouvrable, après avoir vraiment travaillé toute la journée au début, que les chrétiens s'assemblaient pour rompre ensemble le pain de la scène et pour partager la parole de Dieu, de l'Ancien ou des lettres apostoliques. Hein? Bon. Alors nous avons fait un peu ça. On s'est dit, bon, eh bien on va établir un culte. Pas une obligation, c'est pas la parole de Dieu qui l'ordonne, mais en plus de notre culte du dimanche, nous avions un culte le lundi soir, c'est-à-dire un culte à la fin du premier jour ouvrable de la semaine. Un petit peu, si vous voulez, comme les premiers chrétiens se rassemblaient le dimanche soir, alors qu'ils observaient encore le sabbat du samedi, eh bien, nous sommes dit, maintenant qu'on observe le sabbat du dimanche, le premier soir ouvrable de la semaine. Alors, il y avait peut-être peu de monde, mais à ce culte, nous répétions, le pasteur qui officiait, qui présidait le culte, répétait la prédication du dimanche. Si bien que ceux qui, en raison de leurs obligations, n'étaient pas libres de venir au culte le dimanche, eh bien, ils avaient l'assurance, en venant au culte le lundi, de pouvoir... Alors, je vous dis ça simplement comme ça, à titre de ce que nous faisions. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut faire. D'ailleurs, peut-être êtes-vous dans la capacité de réunir tous les membres de votre communauté le dimanche, mais je dirais, il faut avoir ce souci. À cause des progrès technologiques, on se trouve souvent devant l'incapacité de rassembler tous les membres de l'Église. Il y en a qui, en raison de leur fonction, doivent travailler le dimanche. Comment faire qu'ils aient quand même, un, le repos hebdomadaire, et deux, qu'ils aient quand même un culte ecclésial, un culte de la communauté, chaque semaine. Alors voilà le but du sabbat, comme le montre clairement Hébreux 3, c'est la terre promise. Autrement dit, la création renouvelée en Jésus-Christ. La restitution de toutes choses en Christ. Je vous ai dit qu'il y avait un mot grec employé dans le Nouveau Testament, c'est dans la bouche de Jésus lui-même, jusqu'au rétablissement de toutes choses. Le rétablissement de toutes choses se dit par un seul mot en grec, apokatastasis. On peut parler donc de l'apokatastase. Ça veut dire le renouvellement final de toute chose. Ou on pourrait parler, si vous voulez employer un terme plus simple, la transfiguration de toute chose. La transfiguration finale. Eh bien, vous avez, si je puis dire, par exemple, un sens eschatologique de Lévitique 25. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu ce qu'enseigne Lévitique 25, mais Lévitique 25 contient des lois sur les années sabbatiques. Voilà, je vous lis un petit peu, non pas tout ce chapitre, mais quelques passages. Le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï et lui dit, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat en l'honneur du Seigneur. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ, pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit, mais la 7e année, il y aura un sabbat, un repos total pour la terre, un sabbat en l'honneur du Seigneur. Tu n'ensemenceras pas ton champ, tu ne tailleras pas ta vigne, tu ne moissonneras pas ce qui provient des grains tombés de la moisson, tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos total pour la terre. Grâce au repos de la terre, vous aurez de la nourriture, toi, ton serviteur, ta servante, le salarié et le résident temporaire qui séjourne avec toi, ton bétail, les animaux qui sont dans ton pays, tout son produit servira de nourriture. Et alors, vous avez au-delà, vous aviez, tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et la durée de ces 7 sabbats d'année fera 49 ans. Et alors, il y a aussi un repos, le 49e et la 50e année, un repos jubilaire, qu'on appelle repos jubilaire. Pourquoi ? Parce que en hébreu, la trompette se dit Jubal, et c'était une année qui était annoncée au son de la trompette. C'était ça, le jubilé. Et alors, je finis. Et alors, c'est un... Non, je finis simplement dans le même mouvement, parce que c'est la même phrase. Et alors, si vous voulez, vous aviez donc le sabbat hebdomadaire, le sabbat annuel, le sabbat tous les 7 ans, le sabbat tous les 50 ans, et bien tout ça a un sens eschatologique. Parce que à la fin des fins, il y a le repos, le sabbat, dans la transfiguration du ciel et de la terre. Le sabbat, quand le règne de Dieu s'épanouit dans la plénitude, lorsque le Christ revenu, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, non pas un autre ciel et une autre terre, mais l'ancien ciel et la terre, l'ancienne terre, devenus cieux nouveaux et terre nouvelle, une transfiguration de l'univers. Et alors là, vous voyez, c'est la direction eschatologique, ce que j'appelle la direction eschatologique de Lévitique 25. Vous voyez, il y a un mouvement. On va peu à peu, d'année en année, de semaine d'année, de jubilé en jubilé, vers la jubilation finale de la transfiguration universelle. Alors maintenant, allez-y.
Le 49e et la 5e année, ça faisait 2 ans, ça.
Oui.
2 ans de repos.
Oui.
Maintenant, c'est quoi l'application pratique de ces lois-là
Alors, pour nous, n'est-ce pas, dans les milieux réformés les plus stricts aux États-Unis, en Californie, eh bien, on observe ces lois et les cultivateurs trouvent que la terre n'en est que plus productive de se reposer tous les 7 ans. Mais comme je vous l'ai dit, en Israël, on ne l'a pas fait, ça. Et c'est un des reproches que feront les prophètes. Et le jugement de Dieu, c'est que comme pendant 70 fois, on n'a pas fait ce repos d'un an, eh bien, finalement, la captivité durera 70 ans, et pendant les 70 ans de captivité, la terre s'est reposée. Et finalement, Dieu, si vous voulez, a restitué à la terre le repos que le peuple de Dieu ne lui avait pas accordé. Et de force, eh bien, comme le peuple était en captivité, eh bien, la terre a pu se reposer. Voilà le... Alors là, évidemment, vous avez une véritable importance éthique de ces commandements pour l'agriculture. On abuse de la terre. On abuse de la terre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que certains vergers sont devenus des déserts. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu... Et ça pose des problèmes très grands au Proche-Orient, en Afrique et dans bien des pays. On fait n'importe quoi. On rase des forêts entières. Moi, je ne sais pas ce qu'on fait au Canada. Mais, si vous voulez, quand on ne respecte pas la création de Dieu, finalement, ça se retourne contre l'homme. Et le fait que l'homme ne tient plus compte des commandements de Dieu, eh bien, finalement, ça se retourne. Je vais vous lire un passage d'un prophète. Il s'agit d'Ézéchiel. Au chapitre 20, les versets... Voilà. Je les fis, à partir du verset 10, Ézéchiel 20, 10. Je les fis sortir du pays d'Égypte et les conduisis au désert. Je leur donnai mes prescriptions et leur fis connaître mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. J'aurai aussi donné mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils reconnaissent que je suis le Seigneur qui les sanctifie. Mais la maison d'Israël s'est révoltée contre moi dans le désert. Ils n'ont pas suivi mes prescriptions, ils ont rejeté mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils ont profané sans arrêt mes sabbats. Voilà, j'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les exterminer. Néanmoins, j'ai bien, enfin, je dis pas la suite. Mais au fond, voyez, il y a toujours un lien entre l'obéissance et la bénédiction, la désobéissance et la malédiction. Et Dieu a constitué l'homme, il a constitué la terre pour qu'il y ait une harmonie entre l'homme et la terre. Mais il n'y a d'harmonie entre l'homme et la terre que s'il y a préalablement harmonie entre l'homme et Dieu. Et je dirais, c'est dans la mesure où l'homme, ayant retrouvé la paix avec Dieu, observe les commandements de Dieu, qu'à nouveau Dieu le bénit. Vous avez, en liaison avec tout ce que j'ai dit, ensuite je m'arrêterai pour aujourd'hui et vous pourrez me poser des questions, vous avez au début de l'évangile de Luc le Magnificat de Marie. Or, ce Magnificat de Marie, on ne l'observe pas toujours, est un chant sabbatique. Je vous lis ce chant. Voilà. C'est Luc 1, 46. Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qu'il craignent. Il a déployé la force de son bras. » Je ne sais pas si vous voyez que en disant cela, Marie a comme une réminiscence de ce que dit la quatrième parole dans Deutéronome, hein, quand il a délivré son peuple par sa force et à bras étendus. Hein. Donc il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a fait descendre les puissants de leur trône, élever les humbles, rassasier de bien les affamés, renvoyer les riches avides, il a secouru Israël son serviteur et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. Eh bien, si vous voulez, dans tout cet hymne de Marie, il y a un chant, c'est un chant sabbatique. Il s'agit du repos, il s'agit de la paix que Dieu donne à l'homme qui reprend communion avec lui, qui rejoint sa communion. Et à partir de là, je dirais, c'est toute la vie de l'homme qui va être transformée. Parce que, voyez-vous, le sabbat, Jésus en parle d'une manière encore différente. Quand il dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez le sabbat, vous retrouverez le repos. » Finalement, nous avons le sabbat dominical, nous avons le sabbat hebdomadaire, le sabbat un jour sur sept. Mais le chrétien est quelqu'un qui, en un sens très profond, a le sabbat tous les jours de sa vie. Parce que même dans son travail, il se repose en Dieu. Même dans son travail, il est en paix avec Dieu. Même dans son travail, il jouit du repos que Dieu. Et alors là, c'est pour ça, nous avons un grand changement, je dirais, de l'ancienne à la nouvelle disposition de l'Alliance. Dans l'ancienne disposition de l'Alliance, le sabbat, si je puis dire, est borné au jour du sabbat. Dans la nouvelle disposition de l'Alliance, le sabbat est étendu à tous les jours de la vie chrétienne. En un sens, même quand il travaille, le chrétien. Si vous voulez, c'est un petit peu comme la terre. Dans l'ancienne alliance, quand on y reprendra en prenant la parole suivante de la Sainte Écriture, quand on honore son père et sa mère, les jours sont prolongés dans le pays d'Israël, parce que c'est le pays que Dieu donne à son peuple. Tandis que dans la nouvelle disposition, c'est pas seulement la terre d'Israël qui est donnée au peuple de Dieu. C'est la terre tout entière. C'est la terre tout entière. Et c'est pourquoi Jésus dit, et peut dire, heureux les doux, c'est-à-dire ceux qui sont en communion avec lui, car ils hériteront la terre. Les chrétiens ont hérité la terre entière. Et je dirais aussi, les chrétiens goûtent le sabbat de Dieu et goûtent le repos de Dieu chaque jour de leur vie, et pas seulement le jour du sabbat. Alors, vous voulez poser une question, allez-y. Voilà. Il n'y a pas de contradiction, pas même dans notre combat le plus dur et le plus difficile, c'est en Dieu qui est notre repos. Vous savez que saint Augustin, dans ses confessions, a cette parole admirable, notre cœur est inquiet. Alors il faut prendre la inquiet au sens latin, inquietus, qui veut dire sans repos. D'ailleurs, vous savez que quiétude, c'est le repos. Notre cœur est inquiet, c'est-à-dire notre cœur est sans repos, jusqu'à ce qu'il repose en toi. Lorsque notre cœur repose en Dieu, et alors notre cœur repose en Dieu aussi bien le jour du sabbat que tous les jours de la semaine, et notre cœur est en repos en Dieu aussi bien dans les jours de joie et de bonheur que dans les jours d'épreuve. Et finalement, il y a lorsque Blandine refuse de renier sa foi dans les arènes de la ville de Lyon, au moment où l'on lâche les lions, les animaux sur elle, et elle continue à ne pas renier sa foi, alors qu'il suffirait qu'elle renie sa foi pour être libérée, elle meurt en disant « Je suis chrétienne » et elle meurt dans le repos de Dieu. Et elle est dans la paix, même au sein de l'épreuve de son martyre. Et je dirais, c'est là où il y a vraiment un élargissement du repos de l'ancienne à la nouvelle disposition. C'est pour ça que, faites attention, j'ai dit qu'il y a une seule alliance. Mais je crois qu'il y a une grande différence, comme l'affirme d'ailleurs la lettre aux Hébreux, entre l'ancienne disposition et la nouvelle disposition de l'Alliance, parce que, si vous voulez, on a vers un élargissement. Alors vous me direz, élargissement, ça semble contredire la route étroite. Non, parce que on a cet élargissement du cœur, et on a cette vision élargie des choses, que si l'on marche fidèlement dans la voie étroite de l'obéissance à la loi de Dieu. Vous voyez ? Et Jésus, qui a dit que le chemin était étroit, hein, et que la porte était étroite, est aussi celui qui a dit « Mon joug est facile et mon fardeau léger ». Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que même lorsque nous éprouvons toute la pesanteur du joug, dans la communion avec Jésus, nous trouvons ce joug pesant léger. Mais il n'y a pas de contradiction. Il y a une sorte de paradoxe, mais ce n'est pas une contradiction. Mais oui. Ah oui, c'est la folie. Il dira, ils sont fous, ces gars-là. Nous sommes, en un sens, les fous de Dieu. C'est vrai que pour les hommes, pour le monde, c'est de la folie de croire cela et de vivre cela. Et cependant, nous sommes appelés à croire cela et à vivre cela. Et à savoir que c'est vrai que le joug est doux et le fardeau léger, même lorsque tout nous pèse, grâce à Jésus-Christ, c'est léger. Parce qu'il le porte avec nous, il le porte pour nous et avec nous. Autre question, allez-y.
Est-ce qu'on est tenu de faire une journée de repos par semaine ?
Ah oui. Ça, je crois que...
Moralement ?
Ah oui. Ah, oui.
Une complète journée de repos ?
Ah oui. Et je dirais, non seulement, mais il faut veiller à ce que ceux de notre maison l'aient. C'est le devoir d'un mari de veiller à ce que sa femme ait un jour de repos par semaine. C'est le devoir des parents de veiller à ce que leurs enfants aient un jour de semaine. C'est le devoir d'un patron chrétien de veiller à ce que ses ouvriers, ses employés aient... vous voyez, il faut...
Si on prend un train par jour, pendant 4 jours,
Ne comptez pas sur moi pour vous présenter des aménagements. Non, mais je veux dire, en conscience, je dirais, je me garderai bien de juger mon frère. Pas, je crois, chacun fait comme il croit devoir. Mais moi, je pense que lorsque Dieu nous dit de nous reposer, vraiment, un jour sur sept, il faut prendre très à cœur. Je pense qu'il y va de notre bien, n'est-ce pas ? Parce que c'est pas pour nous embêter que Dieu nous donne des lois, mais c'est pour notre bien. C'est parce qu'il pense que pour nous, c'est ce qu'il faut. Il nous a créés tels qu'en suivant sa loi, nous sommes dans la paix, et qu'en désobéissant à sa loi, nous sommes dans le trouble.
Et ceux qui prennent le samedi, par exemple, ont le repos.
Comment ?
Le samedi, c'est le septième jour.
Oh oui, bien, je m'en garde bien de contrebattre les adventistes sur ce point. Moi, si j'ai une opposition aux adventistes, c'est pas sur le point de leur respect du samedi plutôt que du sabbat. Bon, ils croient qu'ils sont toujours tenus au sabbat de l'ancienne disposition. Bon, bah, qu'ils le fassent. Moi, c'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne chez les adventistes, c'est leur volonté réitérée de découvrir quand Jésus-Christ reviendra. Et leur espèce d'obstination à vouloir déchiffrer la date. C'est d'ailleurs très gênant, parce qu'alors là, ils tombent dans un littéralisme aberrant. Un jour, un adventiste à qui je disais, mais Jésus a dit que nul ne savait le jour ni l'heure. Hein ? Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu ? Mais il n'a pas dit qu'on ne peut pas savoir le mois et l'année. Non, alors là, c'est sur le point de l'eschatologie que je crois que les adventistes sont hérétiques. Vous voyez, je veux dire par là, quand je dis sont hérétiques, je ne les juge pas dans le fond de leur cœur. Je dis simplement qu'ils font erreur. Je crois qu'ils font erreur parce qu'ils veulent calculer la date. Alors que précisément, Jésus nous demande de ne pas nous occuper de la date. Nous devons être prêts. Quelle que soit la date, soit de notre mort, soit de son retour, c'est-à-dire c'est toujours la date de notre rencontre avec Dieu. Hein? Parce que nous rencontrerons peut-être Dieu d'abord par la mort, si nous mourons avant le retour du Christ, ou bien nous rencontrerons Jésus-Christ par son retour, si nous sommes en vie lorsqu'il revient. Bon, de toute façon, tout ce que Jésus nous demande, c'est de veiller, hein, et d'être prêt. Mais à partir du moment où on se met à se lancer dans des calculs, dans des hypothèses, dans des choses. Et alors comme à chaque coup ça a raté pour les adventistes, parce qu'ils ont fixé comme ça des dates successives, alors il y a certains adventistes maintenant qui commencent à le comprendre. Mais alors à partir du moment où ils refusent de calculer l'adventus, la date de l'apparition, de la venue de Jésus, à partir de là ils ne sont plus adventistes, puisque le propre de l'adventisme, c'est d'être fixé sur la date du retour du Christ. Alors après ça, c'est secondaire. L'observation du sabbat est secondaire, à mes yeux, quand on considère l'adventisme. C'est pas le point important. Le point important, c'est cette espèce de préoccupation constante de savoir quand il reviendra.
Mais ils sont aussi obstinés sur le point du samedi, par exemple. C'est samedi. Sinon, si on n'observe pas le samedi, on ne peut pas être sûr.
Ah oui, ah mais eux nous jugent de ne pas observer le samedi. Mais je veux dire, en retour, nous ne les jugeons pas d'observer le samedi. Vous voyez, je n'attaque pas un adventiste sur le fait qu'il se repose le samedi plutôt que le dimanche. Mais je sais que le retour, il considère que si l'on a... C'est comme vous avez certains pentecôtistes, ils sont peu nombreux, mais vous avez quelques pentecôtistes qui pensent que si l'on ne parle pas en langue, on démontre qu'on n'est pas sauvé. Oui, alors c'est il ne faut pas faire la réciproque, vous voyez, de ce genre de choses. Parce que l'important, c'est que je crois que des adventistes et les pentecôtistes et d'autres, et nous, et si nous croyons au Seigneur Jésus, c'est là qu'est notre salut. Je veux dire, il n'y a pas. Jésus n'a pas dit croyez en moi et observez le samedi, croyez en moi et parlez en langue et vous serez sauvés. Le point, c'est lorsqu'on fait d'un point secondaire un point capital. Et quand je dis secondaire, ça ne veut pas dire que c'est un point qui n'a pas de sens. Je dis quand même secondaire parce qu'il y a un essentiel par rapport à ce point secondaire. Mais ça, on peut le dire de toute dénomination par rapport aux autres. Chaque dénomination a sa ou ses particularités. Mais à partir du moment où faisons de... Vous connaissez l'histoire. Il y a... Je ne sais plus quelle est la secte chrétienne. Ah oui, c'est pas les témoins de Jéhovah ou autres qui disent qu'il y a 144 000 sauvés. Tout ça, 140 000 sauvés. Et alors on raconte toujours que dans le ciel, il y a une joie de communication de tous les chrétiens, etc. Et alors, il y a quand même un endroit qui est un peu à part dans le ciel. Et on ne sait pas trop ce qui se passe là. Et alors un jour, bien sûr c'est une blague. C'est une blague que je vous raconte, hein, ne prenez pas ça comme une partie de mon cours. On dit, oh, mais non, ça c'est là où il y a les 144 000 témoins de Jéhovah, ils croient qu'ils sont tout seuls dans le ciel. Ah oui, ils sont dans un petit endroit à part, où ils peuvent se compter 144 000.
Oui. Mais ils ne croient même pas au Christ.
Comment ? Ah non, mais ça c'est autre chose. Je ne mets pas du tout les témoins de Jéhovah parmi les... pour moi, ce ne sont pas des chrétiens. Tandis que pour moi, les adventistes sont des chrétiens. Surtout que les témoins de Jéhovah enseignent carrément le salut par les œuvres et tout ça. Ils nient la divinité de Jésus-Christ, ni la Trinité, ni... Non, les témoins de Jéhovah, ça, c'est tout autre chose. Voilà, eh bien, nous allons nous arrêter là et je vous donne rendez-vous demain où nous prendrons la cinquième et la sixième parole. Nous ferons deux paroles par jour, si bien que nous aurons vendredi terminé le décalogue. Et alors nous, la semaine suivante, pendant lundi, mardi, mercredi et jeudi, pendant quatre jours, nous verrons quelques lignes d'éthique sociale. Seulement avec le jour du repos, mais avec les jours de travail. Et donc, attention, ne nous conduisons jamais, nous chrétiens, en égyptiens. C'est-à-dire, ne faisons jamais de nos prochains des esclaves. Ne nous conduisons pas en oppresseurs ou en exploiteurs. Voilà donc un premier paragraphe. Un autre paragraphe concerne le lien entre le peuple de Dieu et le jour du sabbat. Là aussi, on se trouve devant une certaine difficulté. C'est que, dans une grande ville, en tout cas, j'ai été, vous le savez, pasteur à Paris pendant 23 ans, c'est une grande ville, on se trouve devant une difficulté. C'est que, à cause de ce que je viens de dire avant, tout le monde n'est pas forcément libre le dimanche. Et il y a un lien cependant certain entre l'assemblée cultuelle d'Israël et la célébration sabbatique. Autrement dit, le commandement est donné à Israël aussi en tant que peuple, et c'est le jour du sabbat que le peuple de Dieu s'assemble pour louer le Seigneur, pour entendre sa parole. Et alors vous savez que souvent, le jour du sabbat, Jésus a observé lui-même cela. Il se rendait à la synagogue, à Nazareth ou ailleurs, selon l'endroit où il était. Il observait l'assemblée synagogale. Tout le monde ne pouvait pas se rendre au temple, puisque le temple était à Jérusalem et qu'il n'y avait qu'un temple en Israël. Mais on allait dans l'assemblée synagogale du lieu où l'on habitait. Bon, mais... on est obligé de penser à ça. Je ne sais pas comment vous faites à Montréal à ce sujet, mais dans notre paroisse, à Paris, nous avions le culte dominical, qui était le culte où venaient la plupart des membres de l'Église, mais il y avait toujours des membres de l'Église qui, en cause de leurs obligations professionnelles, ne pouvaient pas être à l'Église ce jour-là. Eh bien, nous avions institué un autre culte en semaine. Et alors, nous étions partis du principe, les premiers chrétiens s'étaient assemblés, non pas le jour du repos, mais au soir d'un jour qui était ouvrable en Israël, puisque le dimanche, le lendemain du samedi juif, c'était un jour ouvrable. Et c'est le soir de ce jour ouvrable, après avoir vraiment travaillé toute la journée au début, que les chrétiens s'assemblaient pour rompre ensemble le pain de la scène et pour partager la parole de Dieu, de l'Ancien ou des lettres apostoliques. Hein? Bon. Alors nous avons fait un peu ça, on s'est dit, bon, eh bien on va établir un culte, pas une obligation, c'est pas la parole de Dieu qui l'ordonne, mais en plus de notre culte du dimanche, nous avions un culte le lundi soir. C'est-à-dire un culte à la fin du premier jour ouvrable de la semaine. Un petit peu, si vous voulez, comme les premiers chrétiens se rassemblaient le dimanche soir, alors qu'ils observaient encore le sabbat du samedi, eh bien, nous sommes dit, maintenant qu'on observe le sabbat du dimanche, le premier soir ouvrable de la semaine. Alors, il y avait peut-être peu de monde, mais à ce culte, nous répétions, le pasteur qui officiait, qui présidait le culte, répétait la prédication du dimanche. Si bien que ceux qui, en raison de leurs obligations, n'étaient pas libres de venir au culte le dimanche, eh bien, ils avaient l'assurance, en venant au culte le lundi, de pouvoir... Alors, je vous dis ça simplement comme ça, à titre de ce que nous faisions. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut faire. D'ailleurs, peut-être êtes-vous dans la capacité de réunir tous les membres de votre communauté le dimanche, mais je dirais, il faut avoir ce souci. À cause des progrès technologiques, on se trouve souvent devant l'incapacité de rassembler tous les membres de l'Église. Il y en a qui, en raison de leur fonction, doivent travailler le dimanche. Comment faire qu'ils aient quand même, un, le repos hebdomadaire, et deux, qu'ils aient quand même un culte ecclésial, un culte de la communauté, chaque semaine. Alors voilà le but du sabbat, comme le montre clairement Hébreux 3, c'est la terre promise. Autrement dit, la création renouvelée en Jésus-Christ. La restitution de toutes choses en Christ. Je vous ai dit qu'il y avait un mot grec employé dans le Nouveau Testament, c'est dans la bouche de Jésus lui-même, jusqu'au rétablissement de toutes choses. Le rétablissement de toutes choses se dit par un seul mot en grec, apokatastasis. On peut parler donc de l'apokatastase. Ça veut dire le renouvellement final de toute chose. Ou on pourrait parler, si vous voulez employer un terme plus simple, la transfiguration de toute chose. La transfiguration finale. Eh bien, vous avez, si je puis dire, par exemple, un sens eschatologique de Lévitique 25. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu ce qu'enseigne Lévitique 25, mais Lévitique 25 contient des lois sur les années sabbatiques. Voilà, je vous lis un petit peu, non pas tout ce chapitre, mais quelques passages. Le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï et lui dit, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat en l'honneur du Seigneur. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ, pendant 6 années, tu tailleras ta vigne, et tu en recueilleras le produit, mais la 7e année, il y aura un sabbat, un repos total pour la terre, un sabbat en l'honneur du Seigneur, tu n'ensemenceras pas ton champ, tu ne tailleras pas ta vigne, tu ne moissonneras pas ce qui provient des grains tombés de la moisson, tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillés, ce sera une année de repos total pour la terre. Grâce au repos de la terre, vous aurez de la nourriture, toi, ton serviteur, ta servante, le salarié et le résident temporaire qui séjourne avec toi, ton bétail, les animaux qui sont dans ton pays, tout son produit servira de nourriture. Et alors vous avez, au-delà, vous aviez, tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois cette année, et la durée de ces 7 sabbats d'année fera 49 ans. Et alors il y a aussi un repos, le 49e et la 50e année, un repos jubilaire, qu'on appelle le repos jubilaire. Pourquoi ? Parce que en hébreu, la trompette se dit Jubal, et c'était une année qui était annoncée au son de la trompette. C'était ça, le jubilé. Et alors, je finis. Et alors, c'est un... Non, je finis simplement dans le même mouvement, parce que c'est la même phrase. Et alors, si vous voulez, vous aviez donc le sabbat hebdomadaire, le sabbat annuel, le sabbat tous les 7 ans, le sabbat tous les 50 ans. Eh bien, tout ça a un sens eschatologique. parce que à la fin des fins, à la fin des fins, il y a le repos, le sabbat dans la transfiguration du ciel et de la terre. Le sabbat quand le règne de Dieu s'épanouit dans la plénitude, lorsque le Christ revenu, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, non pas un autre ciel et une autre terre, mais l'ancien ciel et la terre, l'ancienne terre, devenue cieux nouveaux et terre nouvelle, une transfiguration de l'univers. Et alors là, vous voyez, c'est la direction eschatologique, ce que j'appelle la direction eschatologique de Lévitique 25. Vous voyez, il y a un mouvement. On va peu à peu, d'année en année, de semaine d'année en semaine d'année, de jubilé en jubilé, vers la, c'est le cas de dire, la jubilation finale de la transfiguration universelle. Alors maintenant, allez-y.
La 49e et la 5e année, ça faisait 2 ans, ça.
Oui.
2 ans de repos.
Oui.
Maintenant, c'est quoi l'application pratique de ces lois-là pour...
Alors, pour nous, n'est-ce pas, dans les milieux réformés les plus stricts aux États-Unis, en Californie, eh bien, on observe ces lois et les cultivateurs trouvent que la terre n'en est que plus productive de se reposer tous les 7 ans. Mais comme je vous l'ai dit, en Israël, on ne l'a pas fait, ça. Et c'est un des reproches que feront les prophètes. Et le jugement de Dieu, c'est que comme pendant 70 fois, on n'a pas fait ce repos d'un an, eh bien, finalement, la captivité durera 70 ans, et pendant les 70 ans de captivité, la terre s'est reposée. Et finalement, Dieu, si vous voulez, a restitué à la terre le repos que le peuple de Dieu ne lui avait pas accordé. Et de force, eh bien, comme le peuple était en captivité, eh bien, la terre a pu se reposer. Hein? Voilà le. Alors là, évidemment, vous avez une véritable importance éthique de ces commandements pour l'agriculture. On abuse de la terre. On abuse de la terre. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains vergers sont devenus des déserts. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu. Et ça pose des problèmes très grands au Proche-Orient, en Afrique et dans bien des pays. On fait n'importe quoi. On rase des forêts entières. Moi, je ne sais pas ce qu'on fait au Canada. Mais, si vous voulez, quand on ne respecte pas la création de Dieu, finalement, ça se retourne contre l'homme. Et le fait que l'homme ne tient plus compte des commandements de Dieu, eh bien, finalement, ça se retourne. Je vais vous lire un passage d'un prophète. Il s'agit d'Ézéchiel. Au chapitre 20, les versets. Voilà. Je les fis, à partir du verset 10, Ézéchiel 20, 10. Je les fis sortir du pays d'Égypte et les conduisis au désert. Je leur donnai mes prescriptions et leur fis connaître mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. J'aurai aussi donné mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils reconnaissent que je suis le Seigneur qui les sanctifie. Mais la maison d'Israël s'est révoltée contre moi dans le désert. Ils n'ont pas suivi mes prescriptions. Ils ont rejeté mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Et ils ont profané sans arrêt mes sabbats. Voilà. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les exterminer. Néanmoins, j'ai bien, enfin, je dis pas la suite. Mais au fond, voyez, il y a toujours un lien entre l'obéissance et la bénédiction, la désobéissance et la malédiction. Et Dieu a constitué l'homme, et il a constitué la terre pour qu'il y ait une harmonie entre l'homme et la terre. Mais il n'y a d'harmonie entre l'homme et la terre que s'il y a préalablement harmonie entre l'homme et Dieu. Et je dirais, c'est dans la mesure où l'homme, ayant retrouvé la paix avec Dieu, observe les commandements de Dieu, qu'à nouveau Dieu le bénit. Vous avez, en liaison avec tout ce que j'ai dit, ensuite je m'arrêterai pour aujourd'hui et vous pourrez me poser des questions, vous avez au début de l'évangile de Luc le Magnificat de Marie. Or, Ce Magnificat de Marie, on ne l'observe pas toujours, est un chant sabbatique. Je vous lis ce chant. Voilà, c'est Luc 1, 46. Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qu'il craignent. Il a déployé la force de son bras. » Je ne sais pas si vous voyez qu'en prenant, en disant cela, Marie a comme une réminiscence de ce que dit la quatrième parole dans Deutéronome, hein, quand il a délivré son peuple par sa force et à bras étendus. Hein. Donc il a déployé la force en bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a fait descendre les puissants de leur trône, élever les humbles, rassasier de bien les affamés, renvoyer les riches à vide, il a secouru Israël son serviteur et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. Eh bien, si vous voulez, dans tout cet hymne de Marie, il y a un chant, c'est un chant sabbatique. Il s'agit du repos, il s'agit de la paix que Dieu donne à l'homme qui reprend communion avec lui, qui rejoint sa communion. Et à partir de là, je dirais, c'est toute la vie de l'homme qui va être transformée. Parce que, voyez-vous, le sabbat, Jésus en parle d'une manière encore différente quand il dit à moi, quand il dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez le sabbat, vous retrouverez le repos. » Finalement, nous avons le sabbat dominical, nous avons le sabbat hebdomadaire, le sabbat un jour sur sept. Mais le chrétien est quelqu'un qui, en un sens très profond, a le sabbat tous les jours de sa vie. Parce que même dans son travail, il se repose en Dieu. Même dans son travail, il est en paix avec Dieu. Même dans son travail, il jouit du repos que Dieu. Et alors là, c'est pour ça, nous avons un grand changement, je dirais, de l'ancienne à la nouvelle disposition de l'Alliance. Dans l'ancienne disposition de l'Alliance, le sabbat, si je puis dire, est borné au jour du sabbat. Dans la nouvelle disposition de l'Alliance, le sabbat est étendu à tous les jours de la vie chrétienne. En un sens, même quand il travaille, le chrétien... Si vous voulez, c'est un petit peu comme la terre. Dans l'ancienne alliance, quand on y reprendra en prenant la parole suivante de la Sainte Écriture, quand on honore son père et sa mère, les jours sont prolongés dans le pays d'Israël, parce que c'est le pays que Dieu donne à son peuple. Tandis que dans la nouvelle disposition, c'est pas seulement la terre d'Israël qui est donnée au peuple de Dieu, c'est la terre tout entière. C'est la terre tout entière. Et c'est pourquoi Jésus dit, et peut dire, heureux les doux, c'est-à-dire ceux qui sont en communion avec lui, car ils hériteront la terre. Les chrétiens ont hérité la terre entière. Et je dirais aussi, les chrétiens goûtent le sabbat de Dieu et goûtent le repos de Dieu chaque jour de leur vie, et pas seulement le jour du sabbat. Alors, vous voulez poser une question, allez-y. Voilà. Et il n'y a pas de contradiction, pas même dans notre combat le plus dur et le plus difficile, c'est en Dieu qui est notre repos. Vous savez que saint Augustin, dans ses confessions, a cette parole admirable, « Notre cœur est inquiet ». Alors il faut prendre la « inquiet » au sens latin, « inquietus », qui veut dire « sans repos ». D'ailleurs, vous savez que « quiétude », c'est le repos. « Notre cœur est inquiet », c'est-à-dire « notre cœur est sans repos », jusqu'à ce qu'il repose en toi. lorsque notre cœur repose en Dieu, et alors notre cœur repose en Dieu aussi bien le jour du sabbat que tous les jours de la semaine, et notre cœur est en repos en Dieu aussi bien dans les jours de joie et de bonheur que dans les jours d'épreuve. Et finalement, lorsque Blandine refuse de renier sa foi dans les arènes de la ville de Lyon, au moment où l'on lâche les lions, les animaux, sur elle, et elle continue à ne pas renier sa foi, alors qu'il suffirait qu'elle renie sa foi pour être libérée, elle meurt en disant « Je suis chrétienne » et elle meurt dans le repos de Dieu. Et elle est dans la paix, même au sein de l'épreuve de son martyre. Et je dirais, c'est là où il y a vraiment un élargissement du repos de l'ancienne à la nouvelle disposition. C'est pour ça que, faites attention, j'ai dit qu'il y a une seule alliance, mais je crois qu'il y a une grande différence, comme l'affirme d'ailleurs la lettre aux Hébreux, entre l'ancienne disposition et la nouvelle disposition de l'alliance, parce que, si vous voulez, on a vers un élargissement. Alors vous me direz, élargissement, ça semble contredire la route étroite. Non, parce que on a cet élargissement du cœur et on a cette vision élargie des choses que si l'on marche fidèlement dans la voie étroite de l'obéissance à la loi de Dieu. Vous voyez ? Et Jésus, qui a dit que le chemin était étroit, et que la porte était étroite, est aussi celui qui a dit « Mon joug est facile et mon fardeau léger ». Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que même lorsque nous éprouvons toute la pesanteur du joug, dans la communion avec Jésus, nous trouvons ce joug pesant léger. Oui, il n'y a pas de contradiction. Il y a une sorte de paradoxe, mais ce n'est pas une contradiction.
Pas pour un chrétien, mais pour quelqu'un qui ne l'est pas, je crois que c'est aberrant.
Mais oui. Ah oui, c'est la folie. Il dira, ils sont fous, ces gars-là. Nous sommes, en un sens, les fous de Dieu. C'est vrai que pour les hommes, pour le monde, c'est de la folie. De croire cela et de vivre cela. Et cependant, nous sommes appelés à croire cela et à vivre cela. Et à savoir que c'est vrai que le joug est doux et le fardeau léger, même lorsque tout nous pèse, grâce à Jésus-Christ, c'est léger. Parce qu'il le porte avec nous, il le porte pour nous et avec nous. Autre question, allez-y.
Est-ce qu'on est tenu de faire une journée de repos par
semaine? Ah oui. Ça, je crois que...
Moralement?
Ah oui. Ah, oui.
Une complète journée de repos?
Ah oui. Et je dirais, non seulement, mais il faut veiller à ce que ceux de notre maison l'aient. C'est le devoir d'un mari de veiller à ce que sa femme ait un jour de repos par semaine. C'est le devoir des parents de veiller à ce que leurs enfants aient un jour de semaine. C'est le devoir d'un patron chrétien de veiller à ce que ses ouvriers, ses employés aient... vous voyez, il faut...
Si on prend un train par jour, pendant 4 jours...
Ne comptez pas sur moi pour vous présenter des aménagements. Non, mais je veux dire, en conscience, je dirais, je me garderai bien de juger mon frère. Pas, je crois, chacun fait comme il croit devoir. Mais moi, je pense que lorsque Dieu nous dit de nous reposer vraiment un jour sur 7, il faut prendre très à cœur. Je pense qu'il y va de notre bien, n'est-ce pas ? Parce que ce n'est pas pour nous embêter que Dieu nous donne des lois, mais c'est pour notre bien. C'est parce qu'il pense que pour nous, c'est ce qu'il faut. Il nous a créés tels qu'en suivant sa loi, nous sommes dans la paix, et qu'en désobéissant à sa loi, nous sommes dans le trouble.
Et ceux qui viennent le samedi, par exemple, ont du repos ?
Comment ?
Le samedi, c'est le 7e jour.
Oh oui, bien, je m'en garde bien de contrebattre les adventistes sur ce point. Moi, si j'ai une opposition aux adventistes, c'est pas sur le point de leur respect du samedi plutôt que du sabbat. Bon, ils croient qu'ils sont toujours tenus au sabbat de l'ancienne disposition. Bon, bah, qu'ils le fassent. Moi, c'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne chez les adventistes, c'est leur volonté réitérée de découvrir Kant, Jésus-Christ reviendra. Et leur espèce de, comment dire, d'obstination à vouloir déchiffrer la date. C'est d'ailleurs très gênant, parce qu'alors là, ils tombent dans un littéralisme aberrant. Un jour, un adventiste à qui je disais, mais Jésus a dit que nul ne savait le jour ni l'heure. Hein ? Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu ? Mais il n'a pas dit qu'on ne peut pas savoir le mois et l'année. Non, alors là, c'est sur le point de l'eschatologie que je crois que les adventistes sont hérétiques. Vous voyez, je veux dire par là, quand je dis sont hérétiques, je ne les juge pas dans le fond de leur cœur. Je dis simplement qu'ils font erreur. Je crois qu'ils font erreur parce qu'ils veulent calculer la date. Alors que précisément, Jésus nous demande de ne pas nous occuper de la date. Nous devons être prêts, quelle que soit la date, soit de notre mort, soit de son retour, c'est-à-dire c'est toujours la date de notre rencontre avec Dieu, hein, parce que nous rencontrerons peut-être Dieu d'abord par la mort, si nous mourons avant le retour du Christ, ou bien nous rencontrerons Jésus-Christ par son retour, si nous sommes en vie lorsqu'il revient. Bon, de toute façon, tout ce que Jésus nous demande, c'est de veiller, hein, et d'être prêt. Mais à partir du moment où on se met à se lancer dans des calculs, dans des hypothèses, dans des choses. Et alors comme à chaque coup ça a raté pour les adventistes, parce qu'ils ont fixé comme ça des dates successives, alors il y a certains adventistes maintenant qui commencent à le comprendre. Mais alors à partir du moment où ils refusent de calculer l'adventus, la date de l'apparition, de la venue de Jésus, à partir de là ils ne sont plus adventistes, puisque le propre de l'adventisme, c'est d'être fixé sur la date du retour du Christ. Alors après ça, c'est secondaire. L'observation du sabbat est secondaire à mes yeux quand on considère l'adventisme. C'est pas le point important. Le point important, c'est cette espèce de préoccupation constante de savoir quand il reviendra.
Mais ils sont aussi obstinés sur le point du samedi, par exemple. C'est samedi. Sinon, si on ne sait pas le samedi, on ne peut pas être sauvé parce que...
Ah oui. Ah mais eux nous jugent de ne pas observer le samedi. Mais je veux dire, en retour, nous ne les jugeons pas d'observer le samedi, vous voyez. Je n'attaque pas un adventiste sur le fait qu'il se repose le samedi plutôt que le dimanche. Mais je sais que le retour, il considère que si l'on a... C'est comme vous avez certains pentecôtistes, ils sont peu nombreux, mais vous avez quelques pentecôtistes qui pensent que si l'on ne parle pas en langue, on démontre qu'on n'est pas sauvé. Oui, alors c'est il ne faut pas faire la réciproque, vous voyez, de ce genre de choses. Parce que l'important, c'est que je crois que des adventistes et les pentecôtistes et d'autres, et nous, et si nous croyons au Seigneur Jésus, c'est là qu'est notre salut, je veux dire. Il n'y a pas... Jésus n'a pas dit « Croyez en moi et observez le samedi, croyez en moi et parlez en langue et vous serez sauvés ». Le point, c'est lorsqu'on fait d'un point secondaire un point capital. Et quand je dis secondaire, ça ne veut pas dire que c'est un point qui n'a pas de sens. Je dis quand même secondaire parce qu'il y a un essentiel par rapport à ce point secondaire. Mais ça, on peut le dire de toute dénomination par rapport aux autres. Chaque dénomination a sa ou ses particularités. Mais à partir du moment où faisons de... Vous connaissez l'histoire. Il y a... Je ne sais plus... Quelle est la secte chrétienne? Ah oui, c'est... Je crois... C'est pas les témoins de Jéhovah ou autres qui disent qu'il y a 144 000 sauvés. En tout ça, 140 000 sauvés. Et alors, on raconte toujours que... dans le ciel, il y a une joie de communication de tous les chrétiens, etc. Et alors, il y a quand même un endroit qui est un peu à part dans le ciel. Et on ne sait pas trop ce qui se passe là. Et alors un jour, bien sûr c'est une blague. C'est une blague que je vous raconte, hein, ne prenez pas ça comme une partie de mon cours. On dit, oh, mais non, ça c'est là où il y a les 144 000 témoins de Jéhovah, ils croient qu'ils sont tout seuls dans le ciel. Ah oui, ils sont dans un petit endroit à part, où ils peuvent se compter 144 000. Oui.
Mais ils ne voient même pas au Christ, quoi.
Comment? Ah non, 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 mais ça c'est autre chose. Je ne mets pas du tout les témoins de Jéhovah parmi les... Pour moi, ce ne sont pas des chrétiens. Tandis que pour moi, les adventistes sont des chrétiens. Surtout que les témoins de Jéhovah enseignent carrément le salut par les œuvres et tout ça. Ils nient la divinité de Jésus-Christ, ni la Trinité, ni... Non, les témoins de Jéhovah, ça, c'est tout autre chose. Voilà, eh bien, nous allons nous arrêter là et je vous donne rendez-vous demain où nous prendrons la cinquième et la sixième parole. Nous ferons deux paroles par jour, si bien que nous aurons vendredi terminé le décalogue. Et alors nous, la semaine suivante, pendant lundi, mardi, mercredi et jeudi, pendant quatre jours, nous verrons quelques lignes d'éthique sociale.